On va passer donc à la dernière intervention de ce panel avec Tristan Dominguez sur un sujet intitulé « Les misérables à l'Élysée, comprendre les dynamiques de médiation du choix de cas ».
Bonjour à tous et du coup pour cette journée d'étude en présentiel distanciel. du coup, je vais partager mon écran, je vais préparer un PowerPoint. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit bien? Ouais, parfait. Hop. Ouais, je vais me mettre en diaporama. Donc voilà, donc moi je me suis intéressé en fait au film Les Misérables à travers du coup, de la réparation également, mais sur autour du politique, donc la réparation de la politique de la honte. De comment une politique va pouvoir faire avec la honte. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait interpellé, c'était le fait que Emmanuel Macron avait ordonné à l'exécutif d'agir après avoir visionné le film. On va voir que ça peut être une opportunité d'aubaine pour le président de faire ça, mais comment un film qui a eu du mal à se financer a pu atterrir du coup. Avant, j'aimerais juste. Ah, mince, qui est le premier format. Et juste rappeler qu'il y a un lien entre violence policière et art hein, qui existe depuis longtemps et qui n'est pas dans les années, fin des années 2010, notamment avec un des plus connus, c'est le Krump, une danse qui naît à Los Angeles dans les années 90-2000, suite à des violences policières. L'actualité d'aujourd'hui avec la mobilisation du collectif Adama, les Gilets jaunes, etc., était propice finalement à un traitement artistique des violences policières. Voilà, c'est juste une petite remise en contexte par rapport à ça. Et donc voilà, je reviens à mes questionnements, qui est comment un film peut devenir un levier potentiel, hein, puisque là on parle de levier potentiel, on ne va pas s'intéresser dans le détail à tout ce qui a été réellement fait politiquement. Et cette question-là, que je pose finalement, elle est celle de la transposition d'enjeux de capitaux du champ artistique vers le champ politique. En fait, déjà, de montrer qu'au sein de l'œuvre elle-même, il y a déjà une lecture politique qui peut être faite au sein de celle-ci, comment elle arrive à s'inscrire dans une thématique, ce qu'on appelle les films de banlieue, ce que j'ai appelé montrer la honte, finalement, parce que c'est celle de l'œuvre. Ensuite, il y a eu en mai Cannes, mai 2019, il y a eu Cannes qui a donné une visibilité et une tribune possible de dénonciation de la honte à travers cette légitimité artistique et qui a été reprise médiatiquement. Et cette médiatisation-là ont pu renvoyer aux politiques cette dénonciation et donc la possibilité de réparer cette honte. On va s'intéresser à cette œuvre, du coup, que j'ai voulu inscrire dans un genre qu'on appelle les films de banlieue, pour aller très vite, dont on peut mettre la naissance en 95 avec La Haine. Je pense que c'était bien de contextualiser un petit peu l'œuvre dans ce contexte. Ah, il n'y a pas de graphique, malheureusement. Dans quel genre on est classé les films de banlieue, si c'était comédie drame ou pas. Et voilà, donc 80% des films de banlieue peuvent se classer soit en comédie, soit en drame. Donc on voit qu'il y a quand même deux thématiques très fortes dans ce genre-là. Donc les comédies, ça va être Le ciel, les oiseaux et ta mère, par exemple, avec Julien Debbouze. Et les drames, ça va plus être La haine. Et Ladji, avec Les Misérables, il va s'inscrire vraiment dans le drame, donc dans ce courant de films de banlieue qui vise la dénonciation ou un état d'élite. Une réception particulière de l'œuvre. Et Ladji fait partie d'une nouvelle génération de réalisateurs, parce que j'ai fait du coup dans ce corpus de films que j'ai pu constituer d'à peu près 80 films, 87 films. Je n'ai pas trop le temps d'aller dans le détail de la méthodologie, mais voilà. Lui fait partie d'une nouvelle génération de réalisateurs, puisqu'il fait partie du dernier décile qui est né après 1975 de ce corpus. Donc c'est une génération de réalisateurs qui a connu La haine, qui a connu les émeutes de banlieue qui connu le support de Courtrage-Mé, le collectif qui a avec Mathieu Kassovitz, Costa Gavras, etc. Donc il a bénéficié de ça. ce qui lui a permis voilà, d'avoir ces supports et ces nouvelles thématiques qui apparaissent dans ce genre. Maintenant, si on se concentre sur l'œuvre elle-même, il a une originalité dans l'écriture et la réalisation, enfin, trois originalités que je vais vite rapidement détailler, notamment dans le scénario et la mise en scène, ce qui veut, lui, d'armes, de drogue, etc., qu'on peut retrouver dans ce genre-là, pour justement viser l'ambition, il le dit lui-même, c'est de viser une justesse. Donc dans cette visée de justesse, il y a forcément l'ambition de vouloir faire un état des lieux, qui peut du coup se comprendre dans une réception politique du film. Aussi dans le choix du protagoniste et du point de vue, il y a une originalité, puisqu'il choisit de prendre comme protagoniste un agent de police de la BAC, ce qui est original hein, dans ce genre-là, et du coup d'avoir une autre perspective. Donc ça, c'est dû au fait que Lajli a fait du cop-watching, il connaît assez bien l'institution policière, ce qui lui permet d'avoir ce point de vue-là, et aussi d'aplanir du coup par là l'opposition, parce qu'il y a une originalité d'opposition, ça ne va pas être en fait la banlieue contre la police, mais plus, même lui il le dit quand il dit les misérables, c'est toutes les personnes qui sont en banlieue, donc les policiers eux-mêmes, ce qui va avoir responsabilité sur les politiques plus que sur les policiers. Et du coup, cette originalité, elle a été récompensée hein, à Cannes. Dans le corpus que j'ai pu constituer, c'est le film qui a eu le plus de récompenses. À Cannes, il a le prix du jury. Et on voit, juste encore une fois pour contextualiser, que... cette fois, on voit les graphiques. Que il s'inscrit dans un genre qui est légitime à partir de maintenant, et donc qui peut se développer. On le voit parce qu'il y a de plus en plus de films primés, mais aussi les drames sont de plus en plus nominés et primés également, pas contrairement aux comédies. Donc, quand on regarde la conférence de presse qui a lieu le 16 mai, qui dure 40 minutes à peu près, il y a 10 minutes qui sont consacrées juste à une ambition politique et d'initiative du film. On va vraiment parler de politique pendant ces 10 minutes réparties sur ces 40. Ça va être des thèmes, voilà, l'état de la banlieue, l'état de l'école en... Et du coup, qui permettent cette... à la conférence de presse, qui est censée être artistique, puisqu'on est à Cannes, il y a déjà cette volonté de dénonciation. Il a ensuite eu deux interviews, une avec Augustin Trapenard en juin et à Trick TV en mai-juin. Il a eu deux interviews qui vont participer à la légitimation du film. Dans Augustin Trapenard, il va vraiment passer, ça dure 10 minutes à peu près l'interview, il va vraiment passer du temps à montrer le scénario en film. Donc ces deux moments vont être un moment de légitimation dans la sphère médiatique, même s'il y a un peu de cri d'alarme. Et quand on va comparer juste après avec la médiatisation qu'il y a eu à un moment de la sortie du film, on va voir que c'est assez différent. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans la partie 3. Juste avant de revenir sur la médiatisation, il y a eu la promotion du film qui s'est faite un petit peu avant novembre, avant la sortie, évidemment. Donc une promotion qui est faite par les distributeurs, le Pacte. Je voulais juste vous montrer la raison des affiches entre La Haine et Les Misérables. Dans La Haine, on voit bien en bas, il y a des scènes de violence policière. Il y a le regard de Vincent Cassel qui juge, avec écrit La Haine en gros, noir et blanc. Donc là, c'est vraiment visé les policiers, les violences policières. Dans Les Misérables, déjà, il y a un tiers de la partie de l'affiche qui est consacrée à cette légitimation. Donc tout ça. Les deux tiers restants, ça va être une scène. On pourrait croire que c'est les Gilets jaunes avec l'actualité, mais en fait, c'est le moment où. C'est tout le monde est de dos et c'est la foule entière. Et en fait, Les Misérables, du coup, c'est toute la foule entière, toute la population. Donc il y a cette ambition plutôt plus universelle, on va dire, qui est de rassemblement autour de cette notion misérable. Et du coup, c'est une promotion qui se fait finalement entre dénonciation et patriotisme. Surtout quand on regarde les interventions médiatiques, juste le titre, je pense que c'est déjà très parlant. France Culture, c'est « Vous n'éviterez pas la colère », il écrit. L'AGI dénonce les violences policières en banlieue sur le Huffington Post. France Inter, c'est carrément, c'est un film patriote. Et donc, il y a cette revendication de patriotisme qui est faite par Ladji lui-même. Il dit que ce n'était pas un film anti-flic. Et donc, ce qui est visé, alors même que c'est les violences policières, ça va être les politiques. Et donc là, c'est pour ça que je vais pas acculer les politiques, parce que du coup, ça met toute la responsabilité chez les politiques. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que de mauvais cultivateurs, qui là aussi renvoie finalement la fosse au champ politique. Et à ce moment-là, du coup, au moment où il a un succès public, il y a 560 000 entrées en première semaine. Sur Allociné, j'ai vu qu'il y a une note spectateur à 4,1, donc il est très bien reçu. Il est populaire, ce qui fait que les gens vont savoir, quand on fait référence, on sait de quoi on parle et on peut l'utiliser. Et ce qui va être, il va du coup être l'objet que Macron dit qu'il a avoir vu. Il y a un édito de Marianne, par exemple. En fait, c'est genre le film de banlieue, Ladji, et les quatre paragraphes restants, c'est que parler de politique, de chiffres, de positionnement politique. Et il va y avoir pas mal de prises de parole comme ça en référence au film. Où, du coup, on va finalement, les qualités du film, elles sont complètement évacuées. On va juste parler de l'état de la banlieue. Bien sûr, il y a la réaction d'Emmanuel Macron qui, après avoir vu le film, appelle l'exécutif à agir. Ce à quoi Jean-Louis Borloo va... Le plan banlieue qui a été abandonné en 2017 et va même demander en janvier une commission d'enquête au Sénat pour évaluer ce plan banlieue et pourquoi ça a été abandonné, etc. etc. Et donc là, on est vraiment dans le champ politique pur qui a été... Il n'y a pas que le film qui a créé ça, mais en tout cas, le film a créé ce moment politique, ce débat politique. Et donc voilà, en conclusion, je ne sais pas si j'ai vraiment respecté le temps, je crois que j'ai un petit peu... Non, c'était juste pour montrer que si on prend la réparation de la haine comme quelque chose de politique, enfin dans ce champ politique... on est obligé d'essayer de voir les intermédiaires qu'il y a. L'œuvre elle-même, l'analyse de l'œuvre elle-même ne suffit pas. Et je pensais que c'était assez important de voir comment le Festival de Cannes, donc cette légitimation qui est passée, les médias ont pu s'emparer de ça, puisque c'était un moment où c'était aussi les Gilets jaunes, la question des violences policières était aussi d'actualité. Je pense qu'il faut... souligner l'importance de ces intermédiaires, aussi des distributeurs qui ont su jouer sur la dénonciation, le patriotisme, l'universalité, la politisation de l'œuvre. Merci pour votre attention.